Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. L'âge est un facteur déterminant en matière de déficience auditive. Elles augmentent sensiblement avec les années qui passent. La surdité affecte en effet 6% des jeunes de 15 à 24 ans pour toucher 65% des personnes âgées de 65 ans et plus. Les problèmes d'audition qui souvent provoquent un sentiment d'isolement, de frustration sont dus chez les enfants dans plus de la moitié des cas à des causes évitables, des déficiences liées à la grossesse de la mère ou aux conditions de la naissance comme à des maladies chroniques, des déficits d'audition préjudiciables pour l'acquisition du langage et des déficiences que l'on peut dans certains cas prévenir. Des prises en charge sont possibles par la chirurgie, par le recours à des appareillages pour améliorer la qualité de vie. Et aujourd'hui, l'OMS considère que la moitié des cas de déficience auditive pourraient être évités en prenant des mesures de santé publique. Avec nous en studio, le docteur Gérard Flin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien otorhino-laryngologiste à Paris. Tout à l'heure, nous rejoindrons le docteur Tanguy Fouemina, ORL au CHU de Brazzaville au Congo. Et puis nous serons aussi en ligne avec Philippe Lecomte qui est audioprothésiste dans le sud de la France à Cagnes-sur-Mer. Il s'apprête à partir au Cambodge avec une équipe de spécialistes pour opérer et appareiller des personnes atteintes de troubles auditifs dans la région de Kokong. En fin d'émission, comme chaque mercredi, nous retrouverons la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport et médecin de l'équipe nationale de judo. Et puis notre numéro, bien sûr, pour réagir, c'est le 33 1 84 22 75 75. Alors ce sont les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. 360 millions de personnes souffrent de déficiences auditives incapacitantes dans le monde. Cela représente plus de 5% de la population. Docteur Gérald Flin, existe-t-il une cause majeure de perte d'audition?
Alors d'abord, c'est multi-cause en fonction de l'âge, mais la cause majeure qu'on pourrait déjà donner, c'est le bruit. Tout bruit au-delà de 80 décibels. Et les jeunes sont soumis au bruit, à la musique et au bruit de la vie sociale, sont traumatisants et risquent de léser l'oreille interne, qui est un endroit qu'on ne peut pas réparer chirurgicalement et qui est un capital génétique qu'on a tous à la naissance de 16 000 cellules qu'on ne sait pas à l'heure actuelle réparer.
Quand on parle l'un avec l'autre, on peut estimer à combien de décibels à peu près le niveau de notre conversation?
Nous sommes à 40 décibels.
Alors à partir de quelle audition, justement, on estime qu'il y a déficience auditive?
C'est une audition où je vous parle et vous ne m'entendez pas.
Donc c'est quelque chose de tout à fait commun, c'est pas une audition plus fine, c'est pas quelque chose de plus fort, c'est le niveau de la conversation lambda.
Exactement, c'est une voix de conversation où une voix chuchotée n'est pas entendue par les gens qui ont des déficiences auditives, en sachant qu'il y a plusieurs types, plusieurs pertes possibles, des pertes moyennes, légères, profondes, et c'est le rôle du médecin de faire le diagnostic et de donner la conduite à tenir.
Avec une des difficultés, c'est la prise de conscience de ces troubles, docteur Gérald Flin. Certaines personnes, au début, n'ont pas conscience de cette perte d'audition. Alors, quels signes peuvent alerter?
Alors, c'est une bonne question. Déjà, les nouveau-nés, par exemple, comme ils ne peuvent pas avoir conscience de leur perte auditive, ils ont des examens automatiques d'audition. Les enfants, ils devraient avoir des examens automatiques d'audition, car c'est difficile pour des parents de trouver une perte auditive, et les adultes devraient consulter déjà systématiquement à l'âge de 20 ans, à l'âge de 50 ans, à l'âge de 5 ans pour les enfants. Et les grands signes, c'est bien sûr la gêne dans le bruit. Quand on est dans le bruit, on a du mal à entendre, ou la gêne, une gêne sociale, familiale, professionnelle. Et la grosse différence avec les pertes visuelles, c'est que les pertes d'audition, les gens ne s'en rendent pas compte. Et c'est souvent l'entourage qui s'en rend compte, et ça prend quelques années parfois pour faire un diagnostic. C'est assez étonnant de voir des patients qui ont des très grosses pertes auditives pensant qu'ils entendent normalement et qui consultent déjà très tardivement.
Est-ce qu'il y a un phénomène de compensation comme par exemple pour la vue?
Complètement, il y a entendre et écouter. Entendre, c'est notre organe récepteur, l'oreille. Écouter, c'est le cerveau. Et le cerveau met en route la mémoire, l'attention, l'éveil. Et donc souvent, les jeunes, par exemple, comprennent la phrase une seconde avant la fin de la phrase. Plus on avance en âge, plus le cerveau a du mal, si vous voulez, à anticiper la fin de la phrase. Et donc le cerveau joue beaucoup plus dans l'audition que la vision.
Également, on peut remplir des trous, par exemple, au milieu de la phrase. Quand on n'a pas perçu un sens, on devine.
Exactement, on appelle ça la transition phonétique. Par exemple, c'est les touches blanches ou noires du piano. Par exemple, si on dit A-O dans notre phonétique, A-O c'est gâteau, tableau, râteau, marteau. Et donc le cerveau fait, en fonction de la conversation, la gymnastique pour remplacer les cases noires.
Gymnastique, on l'a compris, qui devient plus difficile quand on devient un petit peu plus vieux.
Exactement, puisque quand on est plus vieux, on est plus lent intellectuellement. Et donc, on a du mal à anticiper la phrase. D'où d'ailleurs le grand problème, on en parlera tout à l'heure, de l'appareillage chez les personnes âgées. Il faut être appareillé le plus tôt possible si on en a besoin, car les personnes âgées entendent mais ne comprennent pas.
Tout à l'heure, vous évoquiez le dépistage en France, hein, chez les bébés à la maternité. Est-ce qu'il y a des causes génétiques, justement, pour les surdités chez les plus jeunes?
Bien sûr. Il y a une médecin qui s'appelle Christine Petit qui a découvert un premier gène d'une maladie génétique et le gène de la surdité. Et on a un enfant, un nouveau-né sur 1000, en France et dans le monde, qui naît avec une surdité complète, totale. Et donc maintenant, on a une obligation dans les maternités de faire ce qu'on appelle des auto-émissions, qui sont des examens automatiques de dépistage de surdité.
Est-ce qu'il existe aussi des atteintes qui sont liées à la période de la grossesse, donc avant la naissance?
Bien sûr, il y a des maladies qui pourraient être évitables, comme la toxoplasmose, la rubéole, certains antibiotiques et certaines maladies virale chez la femme enceinte, d'où l'intérêt d'avoir une bonne surveillance chez les femmes enceintes. Et malheureusement, on a encore des malformations auditives de maladies qui auraient pu être évitables.
Et puis, certains médicaments qui peuvent intervenir là à l'âge adulte et détériorer l'audition, docteur Gérald Flin.
Bien sûr, on avait à l'époque de la tuberculose tous les médicaments antituberculeux et on a l'aspirine à forte dose, pas à petite dose. On a certains antibiotiques, bien sûr, tous les sports bruyants comme le tir, la chasse, la musique, la moto, la plongée sous-marine bouteille, l'alpinisme au-delà de 2500 mètres. On a beaucoup de causes qu'on donne d'ailleurs à nos patients, une liste de précautions de médecine un peu préventive.
Avec en particulier aussi les traitements antipaludéens qui sont mis en cause, et là ça intéresse particulièrement nos auditeurs.
Alors effectivement, tout ce qui est la quinine et dérivés de la quinine sont ce qu'on appelle autotoxiques, c'est-à-dire toxiques pour l'oreille interne, et c'est un grand problème de santé, puisque certaines populations sont obligées de prendre ces substances médicales pour les protéger, et malheureusement, la contrepartie, c'est la perte auditive. Et donc, il faut choisir entre le risque de paludisme et le risque de perte auditive, de surdité.
Le fameux bénéfice-risque, on a toujours cette confrontation entre les deux effets. Alors, il y a les médicaments qui peuvent être préjudiciables, et puis aussi des maladies hein, qui ont des effets très concrets sur l'audition. On pense, bien sûr, chez les plus jeunes, aux troubles répétitifs, aux affections répétitives. L'otite, c'est la plus connue de tous.
Avant de parler de l'otite, je vous parlerai des oreillons, qui est une maladie où on est vacciné, d'où l'intérêt de la vaccination, qui donne quand on a les oreillons, contrairement aux gens qui pensent que ça donne des orchites, des inflammations des testicules, ça donne surtout des surdités complètes unilatérales. Donc d'où l'intérêt d'être vacciné contre les oreillons. Et les otites chez les enfants, maintenant il y a de plus en plus d'otites qui passent inaperçues, qui sont indolores, car otite ne veut pas dire douleur, ça veut dire inflammation. Et on considère qu'un enfant sur deux, en dessous de 5 ans, a ou aura ce qu'on appelle une otite séreuse, c'est-à-dire du liquide derrière les tympans, qui diminue l'audition de manière sans douleur, et dont il faut les rechercher systématiquement par les pédiatres ou les ORL.
Ça veut dire, c'est pour ça que quand on amène un enfant chez le pédiatre, communément, il y a toujours cet examen avec cette petite lumière dans le fond de l'oreille.
Alors cette lumière ne suffit pas, puisqu'on voit simplement l'aspect anatomique du tympan, et tout pédiatre devrait faire ce qu'on appelle une tympanométrie, c'est-à-dire c'est un examen qui prend 10 secondes et qui envoie une pression sur le tympan, qui analyse derrière le tympan s'il y a de l'air ou du liquide. En sachant qu'on a également des surdités génétiques chez les enfants, mais c'est le rôle à ce moment-là du spécialiste. Et le pédiatre nous adresse souvent des enfants avec des doutes d'audition et c'est nous qui devons faire le diagnostic.
Surdité génétique, est-ce que ça veut dire que c'est héréditaire? Quand il y a un sourd dans la famille,
exactement,
il faut justement faire état de ses antécédents familiaux.
Exactement, il y a des surdités donc génétiques qui arrivent relativement tôt. La plupart du temps, c'est à l'adolescence ou à l'âge adulte. Et donc, toute surdité génétique familiale doit être signalée au médecin. Et on a actuellement des tests génétiques chez certaines femmes enceintes qui désirent savoir si leur enfant va être susceptible d'avoir une surdité. Bon, ces tests n'ont pas un intérêt fondamental, mais ça peut rassurer certaines familles de sourds, car on a des familles où il y a une surdité dans chaque fratrie.
Merci, docteur Gérald Flin. Vous restez avec nous. Tout de suite, on va prendre un auditeur en ligne. Et cet auditeur, eh bien, c'est une auditrice, Céline. Elle est en ligne de Brazzaville, de Libreville, pardon, au Gabon. Lynn, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous avoir appelés. On vous écoute. Hein. Vous voulez nous parler du cas de votre fils?
Oui, j'ai un fils de 5 mois. Il a eu une otite à 3 mois. Oui, je voulais savoir qu'est-ce qui cause l'otite et est-ce qu'on peut guérir complètement.
Excusez-moi.
Aussi, parce que... je voudrais savoir.
Excusez-moi, j'ai pas entendu le début. Vous avez un enfant qui a eu une otite à l'âge de 3 mois, c'est ça?
Est-ce qu'elle a été soignée
oui,
depuis?
Il a 5 mois aujourd'hui.
Est-ce qu'elle a été soignée cette otite depuis qu'il l'a contractée?
Oui.
Alors, est-ce que c'est un enfant qui est en crèche ou il est chez vous?
Il est chez moi.
Alors, les deux causes, si vous voulez, d'otite chez les petits-enfants, c'est les végétations n'existent pas chez les enfants de l'âge de 3 mois. Elles commencent à pousser dès l'âge de 2 ans. Et les deux grandes causes chez ces enfants, c'est les reflux d'acidité de l'estomac qui peuvent provoquer des otites chez les nouveau-nés et chez les petits bébés, ou une cause infectieuse, c'est-à-dire la plupart du temps, c'est un microbe. Et c'est étonnant à 3 mois, puisqu'effectivement, les enfants sont souvent protégés par les anticorps maternels. Donc c'est un germe qu'il a eu ou au moment de l'accouchement, ou entre l'accouchement et maintenant. Alors les otites chez les enfants, c'est, sont effectivement des maladies embêtantes. Et on leur donne donc des antibiotiques à forte dose. Mais la plupart du temps, ça guérit bien sûr sans séquelles.
Lynn, la réponse du docteur vous convient? Vous avez une question supplémentaire?
Oui, je voudrais savoir si l'otite aura un impact sur son audition.
Aucun impact sur l'audition à partir du moment où l'otite sera guéri. Donc il faut savoir que les otites bien traitées, bien diagnostiquées, il n'y a jamais de complications. Par exemple, le risque de mastoïdite, qui est un fantasme, puisque les mastoïdites, on a eu ça beaucoup dans ma génération médicale et chirurgicale, sont des maladies qui ont quasiment disparu grâce à l'antibiothérapie systématique chez les petits nourrissons.
Merci beaucoup Lynn de votre appel de Libreville au Gabon. On va maintenant passer à Alexis. Alexis qui est en ligne du Burundi, de Bujumbura. Bonjour Alexis.
Oui, bonjour.
Alors vous pouvez nous exposer justement votre témoignage, on vous écoute.
Oui, bien sûr. Moi j'ai un problème très sérieux, un problème des acouphènes. Ces acouphènes ont...
Oui, on vous écoute Alexis.
Oui, ils deviennent de plus en plus intenses lorsque je suis dans un endroit très calme et surtout pendant la nuit. Ce problème date de qui?
De quand?
Consulter les médecins.
Il y a vraiment des coupures sur la ligne. Hein. J'ai votre message, Alexis. Depuis 2 ans, Alexis, vous avez eu des traitements, des médicaments pour essayer de traiter ces acouphènes?
J'ai essayé de traiter, j'ai consulté les neurologues 2 fois, j'ai consulté les otolaryngologues 2 fois aussi. Ils m'ont donné des médicaments, mais qui n'ont pas bien répondu.
Alors, docteur Gérald Fin, qu'est-ce que vous pouvez dire justement à Alexis?
Alors, c'est très intéressant, puisque les acouphènes, il faut savoir que c'est une pathologie difficile. Je vais vous parler après des progrès qui sont extraordinaires actuellement dans le traitement. Les acouphènes touchent 25% de la population. Et 10% de ces 25% de la population ont des acouphènes insupportables. C'est tout simplement un bruit permanent dans l'oreille. Et les acouphènes, il faut savoir que c'est toujours, toujours la conséquence d'une perte auditive, qu'elle soit minime ou importante. Et le cerveau, comme la maladie du membre fantôme, comme il ne reçoit plus le bon message auditif, il envoie ce qu'on appelle une hypersynchronisation, un hyperfonctionnement qui génère l'acouphène. Donc les acouphènes, pour vos auditeurs, ne viennent jamais de la circulation du sang, ne viennent jamais des vertèbres ni de la mâchoire, c'est toujours la conséquence d'une perte auditive ou d'une souffrance auditive. Les traitements ont énormément progressé, donc il y a 3 types de traitements. Premier traitement, on prend en charge l'émotionnel de chaque patient, car comme toute maladie chronique, les patients supportent plus ou moins bien en fonction de leur émotionnel. Deuxième traitement, des appareillages auditifs qui marchent dans 90% des cas. On a des nouvelles techniques d'appareillage auditif extraordinaires. Et le troisième traitement, ce sont des médicaments qui sont des antidouleurs. J'en avais déjà parlé, ce sont les antiépileptiques à très petite dose qui donnent 75% de très bons résultats. Donc maintenant, tout patient acouphénique devrait être considéré comme une maladie normale. Simplement, ce sont des consultations très longues et beaucoup d'ORL ont du mal à prendre en charge ces patients qui ont cette pathologie depuis de nombreuses années et qui posent beaucoup de questions.
Alexis, est-ce qu'on vous a proposé un appareillage?
Avant de dire est-ce qu'on fait un appareillage, je parle de cautérer le premier traitement.
Pardon?
Le premier traitement dont vous avez parlé, c'est quoi, l'antiépileptique à basse dose?
Oui, on donne des antiépileptiques, on donne un dixième de la dose habituelle. Les médicaments antiépileptiques sont à donner depuis 60-70 ans chez les épileptiques. On donne environ 2 grammes par jour. Et les antiépileptiques, on donne 200 mg, entre 50 et 200 mg, entre 1 mois et 6 mois. Ce qui agit au niveau du cerveau et c'est extrêmement efficace. Et l'association des antiépileptiques avec l'appareillage auditif donne d'excellents résultats chez les patients qui ont des acouphènes. Et on est un peu démunis un peu actuellement parce que ce discours, on le diffuse depuis 5-10 ans et les ORL ont du mal à adhérer à ce discours alors que les résultats sont extraordinaires.
Merci beaucoup Alexis pour votre appel de Bujumbura. On va maintenant prendre en ligne du Cameroun de Maroua Sylvain. Sylvain, bonjour. Sylvain, on vous écoute. Votre témoignage porte sur le cas de votre petite fille. Ah, on a un problème de liaison avec Sylvain. On va prendre une autre auditrice, c'est Paulette qui est en ligne également du Cameroun, de la même ville de Maroua. On vous écoute, Paulette.
Bonjour.
Bonjour.
Bon, mon problème, il s'agit de démangeaisons au niveau des deux oreilles. Depuis environ 10 ans.
Oui, ça. Vous avez donc une démangeaison au niveau des deux oreilles. On appelle ça un eczéma. La définition.
Oui, donc, ça me démange et puis je racle la gorge.
Oui, exactement. Donc, vous avez ce qu'on appelle un eczéma. Et si vous raclez la gorge, on appelle ça un hémage. H-E-2-M-A-G-E. Et c'est toujours d'origine allergique. Donc l'allergie, on n'a pas besoin de la rechercher, il suffit de prendre des antihistaminiques, il y en a une cinquantaine, il faut trouver celui qui vous convient, et une petite pommade locale à l'entrée du conduit. Donc c'est des traitements qui marchent très bien. Donc un antihistaminique, je ne vais pas donner de nom, mais vous avez les anciens Claritin Zyrtec, Aerius Kestintelfast, qu'on prend pendant quelques semaines à quelques mois, et une pommade à l'entrée de l'oreille, à la demande, et ça marche très bien.
Voilà donc pour cette réponse très concise et très claire. Paulette, merci pour votre appel. Justement, quand on parle de cet eczéma, ça touche le conduit auditif. Cela nous appelle à parler, justement, à décrire cet appareil auditif. Vous disiez tout à l'heure certaines pathologies, certains troubles qui affectent justement la partie antérieure ou postérieure de l'oreille. Vous pouvez nous en dire plus, docteur Gérald Flin?
Alors, quand on regarde l'oreille, quand on regarde par le petit trou du pavillon, on arrive sur le tympan. On appelle ça l'oreille externe. L'oreille externe, c'est... Le son passe par l'oreille externe, donc déjà il faut dire à vos auditeurs qu'il ne faut pas nettoyer les oreilles au coton-tige, car la cire qu'on appelle cérumen, C-E accent aigu R-U-M-N, est à l'entrée du conduit, et tous les produits en vente en pharmacie sont des attrape-nigauds, car ça ne fait que repousser au fond.
Qu'on ne parle pas toujours de ces fameux bouchons d'oreilles, mais c'est un cas très fréquent de consultation en RL.
Voilà, donc les bouchons de cérumen qui existent devraient moins exister si les gens... Ne nettoyaient pas autant leurs oreilles.
Mais quand les gens ont envie de se nettoyer les oreilles, il faut bien qu'ils fassent quelque chose.
Non, ils se nettoient à l'entrée, car la chose jaune que vous voyez, c'est à l'entrée du conduit. Il n'y a pas à l'intérieur. Hein. À l'intérieur, vous allez à 3 cm, donc ça vient de l'entrée. Donc à chaque fois que vous allez mettre quelque chose, vous allez le repousser au fond. Donc on nettoie avec le petit doigt. Ensuite, les cotons-tiges provoquent de l'eczéma, puisque c'est une irritation permanente. Donc ça, c'est la pathologie de l'oreille externe, les bouchons de cire ou les otites externes qui sont déclenchés par les cotons-tiges ou les bains de piscine. Ensuite, on a une pathologie derrière le tympan. Puisque un son, c'est une vibration d'air qui est transmise par le tympan et les osselets. Ça se répare chirurgicalement. Ensuite, on a une transmission mécanique de cette vibration à l'oreille interne jusqu'au cerveau.
Et là, on a eu tout justement se dérouler avec, on peut le dire, pour chaque partie de l'oreille, différentes options, aussi différents troubles et des traitements.
Soit médicaux, soit chirurgicaux, en sachant qu'on ne perd pas l'oreille interne ni le nerf auditif et qu'on ne perd l'oreille moyenne.
Alors on se retrouve dans 3 minutes, docteur Gérald Flin. Vous pouvez continuer à nous appeler, à nous poser vos questions 33 1 84 22 75 75. À tout à l'heure.
C'est fin.
Là. Priorité santé. Caroline Paré.
Et on se retrouve pour cette seconde partie de Priorité Santé consacrée aux troubles auditifs. Toujours avec nous en studio, le docteur Gérald Flin, chirurgien otorhinolaryngologiste à Paris. Docteur Gérald Flin, vous êtes ORL, comme on dit communément, chirurgien aussi. Alors, quel cas justement de déficience auditive appelle un geste chirurgical ?
Toute pathologie d'oreille moyenne, l'oreille moyenne c'est derrière le tympan, on a le tympan et les osselets, donc on peut avoir des perforations de tympan. On appelle ça des otites chroniques, par exemple, des otites qui ont été mal traitées dans l'enfance. Ça se voit de moins en moins puisque les otites maintenant sont très bien prises en charge chez les enfants. Donc toute otite mal traitée dans l'enfance peut provoquer une perforation de tympan ou un trouble de mobilité d'un osselet. À ce moment-là, on opère, on répare s'il y a besoin et si les gens sont motivés, puisqu'on leur sauve pas la vie, on leur donne une audition. On peut réparer certaines malformations des osselets, par exemple l'otospongiose, qui est une maladie génétique la plus fréquente dans l'oreille moyenne, qui est un osselet qu'on appelle l'étrier, qui ne s'enfonce pas bien dans l'oreille interne. Et donc toute pathologie d'oreille moyenne, ça peut être une tumeur, un cholestéatome, ça peut être plein de pathologies, donc tout peut se réparer au niveau de l'oreille moyenne, bien sûr au niveau de l'oreille externe. Et dans l'oreille interne, la chirurgie est difficile, puisque si on touche l'oreille interne, on risque de la détruire. Et la seule chirurgie possible dans l'oreille interne, c'est les implants cochléaires, qui peuvent être proposés dans certains types de surdité profonde. C'est extrêmement décrié chez les enfants par les sourds profonds qui pensent qu'on va détruire leur langue des signes, alors que c'est les parents qui décident s'ils veulent que leurs enfants subissent un implant cochléaire. Et les implants cochléaires chez l'adulte, en cas de surdité importante, qu'on appelle une surdité profonde, donnent de très bons résultats.
Ces implants sont installés pour une durée définitive ou il faut qu'ils soient changés régulièrement ?
C'est pour une durée définitive et ils sont reliés à un appareil auditif qu'on change régulièrement tous les 4-5 ans.
Alors, il y a aussi des pathologies chroniques qui accroissent les risques de perte d'audition. Par exemple, le diabète.
Le diabète, effectivement, peut donner des atteintes de la cochlée. La cochlée, c'est l'oreille interne, c'est une forme de coquille d'escargot, bien sûr.
Et on a parlé tout à l'heure de cette ambiance sonore nocive avec aussi des cas d'exposition professionnelle. On voit sur les chantiers les ouvriers équipés de ces casques assez impressionnants. Certains métiers, justement, imposent des protections auditives, mais il y a encore trop de métiers pour qui les précautions suffisantes ne sont pas prises.
Oui, c'est-à-dire que les surdités professionnelles sont de plus en plus fréquentes et ça touche des populations étonnantes. Ça peut toucher des maîtresses d'école, des instituteurs, enfin maintenant on appelle ça autrement. Ça peut toucher des coiffeurs, ça peut toucher des dentistes, ça peut toucher des gens qui conduisent des motos. Et bien sûr, tous les ouvriers, maintenant, ils ont une obligation de porter un casque, mais souvent, ils ne le mettent pas. Et tout traumatisme auditif peut provoquer des surdités temporaires ou définitives. Et c'est la première cause actuellement d'atteinte auditive. Les grandes causes, si vous voulez, chez l'adulte de déficit auditif, c'est la moitié des causes génétiques, un peu comme les gens qui ont des myopies, il y a des myopies familiales, donc il y a des surdités familiales d'oreille interne. Et la deuxième cause, un quart des causes, c'est les causes traumatismes sonores qui sont de plus en plus fréquentes chez les adolescents et les enfants.
Quelque chose que j'ai découvert en préparant cette émission, il y a aussi des troubles qui sont liés à la pratique de certains sports, notamment les sports nautiques.
Exactement, certains sports nautiques, surtout la plongée sous-marine bouteille. Sinon, les sports sur l'eau n'ont pas de risque majeur, sauf par exemple les surfeurs, comme ils ont des vagues qui sont à forte pression, qui tombent dans leur oreille, ils ont ce qu'on appelle des ostéomes, des petits rétrécissements du conduit auditif externe qui s'opèrent très bien, mais ça récidive. Donc finalement, on les voit tous les 5-6 ans, on leur refait une petite intervention chirurgicale. Donc ça, c'est les problèmes d'oreille externe. Et les sports dangereux, c'est surtout donc l'alpinisme, la plongée sous-marine bouteille, le tir, bien sûr, car il faut protéger ses oreilles. Et la moto, j'insiste dessus, puisque les motards ont des surdités car la moto fait un peu de bruit.
Un petit peu, oui. On va maintenant prendre la direction du Congo pour retrouver le docteur Tanguy Fouemina. Bonjour docteur.
Bonjour madame.
Vous êtes otorhinolaryngologiste au CHU de Brazzaville. Docteur Tanguy Fouemina, quels sont les troubles auditifs les plus fréquents au Congo que vous rencontrez en consultation ?
Alors en consultation, selon une étude par exemple que nous avons menée en 2014, il faut dire que le trouble le plus fréquent en rapport avec les bouchons de cérumen, les baisses d'audition liées aux bouchons de cérumen, c'était 40% des troubles répertoriés. Puis viennent les infections de l'oreille moyenne, donc les otites aiguës, les otites chroniques. À cela, on ajoute les acouphènes, on en a parlé déjà là, les otites séromuqueuses, et les surdités de perception qui sont liées à la presbyacousie, c'est-à-dire la perte d'audition, si vous voulez, liée à l'âge. Il y a l'autotoxicité aussi, les traumatismes, etc. Voilà.
Alors, l'autotoxicité, ce sont les médicaments. Précisément, exactement, quel type de traitement vous avez pu constater justement au Congo, dans votre pays, quel type de traitement provoque justement ces déficiences auditives?
Pour ce qui est des traitements, en fait, c'est beaucoup plus, par exemple, certaines familles de médicaments comme les antibiotiques. Il y a une famille précise, les aminosides, qui est concernée, hein, qui entraîne une autotoxicité. Mais vous savez, nous sommes en pays d'endémie palustre, et donc certains médicaments liés au paludisme, à la prise en charge du paludisme, notamment la quinine, et entraînent comme ça des problèmes auditifs. Mais généralement, c'est réversible pour ce qui est des médicaments antipalustres. Surtout que c'est pas pris pendant longtemps, c'est 3 jours, 5 jours maximum. En général, bon, le patient se plaint de troubles auditifs et tout, de bourdonnement d'oreilles notamment, mais ça régresse et après le traitement, il récupère complètement.
Docteur voilà. Tanguy Fouemina, quelles sont les populations les plus touchées?
Les populations les plus touchées, pour ce qui est du sexe, on va dire que la distribution est quasi équivalente, hein, les hommes comme les femmes, même si pour les acouphènes par exemple, ce sont beaucoup plus les femmes qui consultent. Voilà.
Qui sont donc qui ont donc cette sensation.
Pour les acouphènes, mais pour le reste, les descriptions équivalentes, hommes comme femmes.
Est-ce que vous avez pu identifier certaines pratiques quotidiennes, hein, des habitudes néfastes pour l'audition? Tout à l'heure, nous on parlait de la musique poussée trop fort et même conduire une moto, trop de bruit. Vous avez d'autres constats?
Ben, disons que maintenant, par exemple, avec l'avènement des téléphones portables et des smartphones, notamment les jeunes qui les utilisent sans trop de précautions, c'est-à-dire par exemple le volume trop fort et avec une exposition trop prolongée, l'usage de casque, ça aussi ça entraîne des troubles d'audition. Et puis vous parlez de pratiques néfastes, il y a l'usage abusif par exemple du coton-tige. Je crois que c'est le docteur.
On en a parlé tout à l'heure, oui.
De l'autre côté, voilà qui en a parlé. L'usage abusif du coton-tige est incriminé comme première cause de formation du bouchon de cire humain.
Vous êtes
Et voilà, donc, toujours en matière de pratiques néfastes, il y a des gens qui remplacent le coton-tige, par exemple, par des tiges d'allumettes ou la pointe de stylo, une clé, pourvu qu'ils tombent sur un objet pointu ou un peu acéré pour pouvoir entrer dans le conduit.
Là, c'est carrément dangereux. Hein.
Le prurite, voilà, et ça, c'est très dangereux.
Oui, vraiment, conduite à exclure totalement. Vous êtes combien d'ORL au Congo? Combien d'otorhinolaryngologistes, notamment à Brazzaville, dans la capitale?
Ben, disons qu'au Congo, nous sommes 15 ORL en tout en ce moment, et à Brazzaville, nous sommes 12. Les trois autres sont à Pointe-Noire.
Difficile de consulter, ça veut dire que vos carnets de rendez-vous doivent être complètement complets?
En général, oui, c'est ça.
Est-ce que vous avez un message à diffuser à la population, en particulier à la population congolaise?
Ben, le message tient à la prévention de ces troubles avant qu'ils ne s'installent. Hein, il s'agit donc d'adopter des habitudes comportementales qui préservent au mieux l'audition. Par exemple, éviter l'usage intempestif du coton-tige, parce que, comme je vous ai dit, d'après l'étude que nous avions menée, c'est la première cause des bouchons de cire humaine et la première cause, enfin le premier trouble répertorié sur l'étude sur une année. Et puis, il faut éviter l'exposition prolongée à des niveaux sonores élevés. Hein. Préférer, par exemple, autant que possible, d'utiliser le haut-parleur du téléphone aux écouteurs ou au casque, notamment pour certaines professions exposées, comme ceux qui travaillent dans les centres d'appel. Et puis surtout, à l'apparition de la moindre gêne auditive, il ne faut pas hésiter à aller consulter son médecin, notamment ORL.
Merci beaucoup, docteur Tanguy Fouemina, en ligne de Brazzaville. Docteur Gérald Fin, comme avec vous tout à l'heure, des gestes du quotidien, des gestes de bon sens. On va finir par les interdire, les cotons-tiges, ou alors marquer attention, dangereux pour la santé.
Non, les cotons-tiges, c'est bien pour le maquillage.
C'est bien pour le maquillage, d'accord, pour autre chose, pas les oreilles. C'est quoi la différence précise entre une prothèse auditive et un implant auditif?
Alors, une prothèse auditive, c'est un peu le principe de la lunette chez les opticiens, c'est-à-dire vous mettez ça derrière l'oreille ou à l'intérieur de l'oreille, et donc ça amplifie une perte auditive. Quand vous parlez d'un implant auditif, c'est quelque chose qui est implanté chirurgicalement et qui est relié à une prothèse externe.
D'accord. Alors, pour évoquer justement cette question des appareillages des personnes qui souffrent de troubles auditifs, on retrouve Philippe Lecomte. Bonjour Philippe Lecomte.
Bonjour Madame Paré, bonjour Docteur Fin.
Bonjour.
Vous êtes audioprothésiste dans le sud de la France à Cagnes-sur-Mer et bientôt, ce sera le 10 novembre, vous allez partir au Cambodge avec une équipe de bénévoles pour y traiter des personnes atteintes de troubles auditifs. En quoi consiste précisément, Philippe Lecomte, votre mission humanitaire ?
Alors c'est une mission que j'exerce depuis 5 ans maintenant. Je réunis une équipe de médecins, de chirurgiens ORL et d'anesthésistes. Et je les accompagne pour m'occuper du volet correction auditive. Donc c'est à l'hôpital de Koh Kong, au sud-ouest du Cambodge. Et donc tout le volet médical était pris en charge par les chirurgiens ORL, qui opèrent beaucoup de thyroïdes, quelques kystes, quelques fentes labiales. Et de mon côté, l'hôpital m'a recruté en amont des personnes malentendantes et que j'équipe d'appareils auditifs. Alors, l'intérêt de cette mission, c'est évidemment d'avoir accès pour les jeunes adultes, principalement à la communication, parce que l'absence de communication, c'est l'isolement, et puis ils ne peuvent plus avoir d'activité professionnelle. Et c'est également de pouvoir y retourner chaque année pour, comme le docteur Fin doit bien le savoir, une aide auditive, ça s'entretient, ça se suit, ça se corrige. Et donc, l'important de ces missions, c'est à la fois la récurrence, d'y aller tous les ans et de pouvoir transmettre des compétences à des jeunes médecins locaux.
Alors, le suivi des patients et donc, vous venez de le dire, le travail avec ces équipes locales. Justement, comment se passe ce transfert de compétences ?
Alors, il faut savoir qu'au Cambodge, les étudiants en médecine doivent 2 ou 3 années de leur vie aux provinces reculées du Cambodge. Donc, ils n'ont pas forcément envie d'y aller, mais ils le doivent à l'État. Et donc, nous avons de jeunes médecins, un peu l'équivalent de nos internes, qui n'ont pas forcément de compétences chirurgicales. Et donc, l'équipe avec laquelle je parle, les médecins ORL, assurent leur formation dans notre spécialité ORL. Et là, nous avons un jeune médecin qui est là depuis 3 ans et qui a décidé de rester à Koh Kong, parce qu'on lui a transmis beaucoup de savoir et il opère avec nous. Avec les chirurgiens, et il peut commencer, lui, déjà maintenant, à faire des opérations, et il a décidé de rester à Koh Kong et de conserver cette compétence pour la province.
Alors on comprend...
Ça, c'est intéressant, parce qu'il n'y a pas d'humanitaire sans transmission.
Justement,
il faut transmettre.
On comprend bien le bénéfice que tirent les populations, que tirent les professionnels sur place. Et vous, personnellement, Philippe Lecomte, vous y retournez tous les ans. Comment vous expliquez, justement, cette mission qui est devenue, en quelque sorte, une sorte de vocation ? Comment vous l'expliquez ?
Alors, je me suis beaucoup posé la question, parce qu'on me l'a posé précédemment. Écoutez, c'est démarré par un hasard. C'est une amie médecin d'origine cambodgienne qui m'a demandé de l'accompagner sur cette mission pour voir ce qu'on pouvait faire pour les malentendants, parce qu'il y avait un besoin. Et donc, la société Audica a bien voulu financer cette opération. Et je suis parti là-bas et j'ai vu l'étendue des besoins. Et puis la chaleur des gens, et puis cet aspect décommercialisé, cet aspect où je fais mon métier et que mon métier. Et ben, je suis tombé dedans et maintenant je me bats chaque année pour... Enfin, je ne me bats plus parce que Audica maintenant a acté le financement de cette mission chaque année et je les en remercie. Et je peux sereinement constituer mon équipe, partir là-bas avec du matériel, faire mon métier. Et c'est une richesse, à la fois intellectuelle et affective qui est incomparable.
Merci beaucoup Philippe Lecomte. Je rappelle que vous êtes audioprothésiste sur la Côte d'Azur, Cagnes-sur-Mer dans le sud de la France. On va changer complètement de région pour retrouver la Côte d'Ivoire, Abidjan. C'est Albéric qui est en ligne avec nous. Albéric, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Et vous voulez nous parler de votre fils, du cas de votre fils. On vous écoute.
Exactement. D'abord, je suis docteur. Il y a à peine 4 ans, j'ai envoyé mon fils pour un problème d'oreille parce qu'on a constaté qu'il fallait crier pour qu'il puisse nous entendre. Et lorsque nous sommes arrivés, on a fait 2 examens. Le docteur a pu faire un nettoyage, un double nettoyage, et il nous a dit qu'il n'observait rien. Et il nous a donné un petit comprimé, enfin une vitamine, afin que l'enfant puisse prendre. Et qu'il dit ça ira. Bon, maintenant, à deuxième consultation, on nous a dit, il n'y a toujours rien, mais on va laisser l'enfant avoir au moins 10 ans, 9 ans, 10 ans, pour qu'on puisse voir s'il y a des choses qui vont se développer pour mieux détecter. Bien avant que je ne parte, cela, je vous appelle pour savoir réellement alors, quels sont
Docteur Gérald Fin, déjà, vous voulez réagir.
Oui, alors Albéric, j'ai vu votre message, c'est pour ça que je voulais qu'on vous évite au téléphone. Il faut savoir que si votre fils, votre enfant ne voit pas bien, vous n'allez pas attendre 5 ans de faire un diagnostic. Donc un enfant qui n'entend pas, c'est une urgence. C'est-à-dire qu'on doit faire un diagnostic, ce n'est pas un bouchon de cire qui fait mal entendre un enfant, c'est où il a un problème derrière son tympan, auquel cas c'est accessible chirurgicalement, ou c'est un problème d'oreille interne, ce qui est un peu plus embêtant. Donc moi je vous conseille de consulter quelqu'un de compétent qui fasse un audiogramme extrêmement précis, et surtout de faire pour donner une conduite à tenir, car c'est une urgence. Un enfant qui n'entend pas, on doit le faire entendre.
Docteur Gérald Fin, cette vitamine, ça ne colle pas, il faut voir quelqu'un d'autre.
La vitamine C, vous savez, ou la vitamine B, voilà. Les vitamines, ça n'a jamais amélioré l'audition, donc il faut absolument consulter rapidement pour faire un diagnostic, parce que ce que vous nous racontez, c'est qu'il n'y a pas eu de diagnostic, et c'est un petit peu, ça me gêne beaucoup.
D'accord. Donc, je voulais savoir quelque chose. C'est que si Priorité Santé a peut-être un spécialiste, qui connaît mieux un spécialiste...
Ah, il faut voir un spécialiste en urgence, oui.
Mais vous savez, en Afrique, on a beaucoup de spécialistes, mais en fin de compte, quand on va, on n'a aucun appareil pour diagnostiquer.
Si, vous avez forcément des audiomètres. Un enfant, oui. Si vous voulez, il y a un examen très simple, c'est d'abord de le regarder sous microscope, le tympan. Oui. Un deuxième examen, une tympanométrie, vos ORL sont équipés en tympanométrie. Un troisième examen chez les enfants, on peut leur faire ce qu'on appelle des vocales, c'est-à-dire qu'on leur envoie des mots et ils répètent. Et s'ils ne répètent pas, c'est qu'il y a un problème d'audition. Et donc, c'est urgent de faire un diagnostic chez votre fils.
D'accord. Donc, ma priorité de santé, est-ce que vous connaissez un spécialiste, un numéro où je peux l'avoir?
On ne peut pas vous le donner,
il faudra...
Hors antenne, on verra ça avec votre message Facebook, on se rejoindra là et on verra si on peut vous indiquer un spécialiste. Merci beaucoup Albéric pour votre appel d'Abidjan. En tout cas, à Abidjan, il y a des ORL, donc on trouvera forcément une référence à vous donner. Nous sommes maintenant en ligne avec le Sénégal, Dakar, c'est Bahamadou qui est en ligne, on vous écoute.
Bonjour.
Bonjour.
Moi, j'ai deux questions. Ma première question, c'est qu'à chaque fois que j'écoute une émission à la télé ou à la radio, je suis obligé de me concentrer pour mieux comprendre l'émission. Donc, j'aimerais savoir, la concentration que je fais, c'est dû à un problème auditif ou pas? Si c'est le cas, et quelles sont les conséquences à long terme? Ça, c'est ma première question.
Bahamadou, est-ce qu'il y a des personnes malentendantes dans votre famille?
Oui, ça c'est dans la deuxième question. Dans ma famille, il y a mon père et sa sœur, ma tante. Au fil du temps, ils avancent en âge, ils ont des problèmes d'audition. Donc ma deuxième question, j'aimerais savoir si c'est héréditaire.
Alors, deux questions sur cette gêne, cette perception difficile quand il y a beaucoup de bruit, un débat, et savoir si cela peut avoir un caractère héréditaire.
Alors déjà, vous semblez avoir un quotient intellectuel au-dessus de la moyenne pour poser ces questions, donc je ne suis pas inquiet pour votre cerveau, pour la compréhension. Donc si vous avez du mal à entendre et à comprendre à la télévision, c'est que vous avez un problème d'audition évident. La deuxième chose, c'est que c'est probablement un problème d'audition génétique, puisque vous décrivez des antécédents familiaux dans votre famille, donc je vous conseille de consulter. Et vous aurez probablement besoin de porter un appareil auditif. Alors, deuxième chose, quand on n'entend pas bien la télévision, on a actuellement des casques d'amplification sans fil en Wi-Fi qui marchent très bien. Donc déjà, tout patient qui entend mal à la télévision, qui gêne son entourage, peut utiliser sans danger, à partir du moment où il n'écoute pas trop fort, un casque d'amplification pour la télévision.
Bahamadou, la réponse du docteur Gérald Fin vous convient ?
Oui, ça me convient. Je vais commencer par voir un médecin, comme il a dit.
Tout à fait. Merci beaucoup de votre appel. Un dernier message. Hein. Le message vient de Salvatore à Paris. Son enfant, je vous la lis parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Son enfant a une méningite néonatale. 6 ans après l'accouchement, il y a eu 3 semaines d'hospitalisation. À ce moment-là, on découvre que ce petit enfant est sourd et Salvatore demande quelle démarche à suivre, comment venir en aide à son enfant.
Alors d'abord, effectivement, les méningites peuvent provoquer des surdités par elles-mêmes ou par les traitements antibiotiques qu'on est obligé de prescrire. La deuxième chose, je ne sais pas l'âge exact de l'enfant, il a 6 ans, c'est ça?
Ça doit être 6 ans, oui,
parce que c'est... Donc un enfant qui n'entend pas, effectivement, il faut faire un diagnostic de sa perte auditive, donc voir un ORL. Un ORL, vous pouvez aller à l'hôpital Necker, ils sont extrêmement équipés dans ces examens. Et la troisième chose, si malheureusement il n'entend pas bien, il faudra bien sûr l'appareiller. Et à ce moment-là, on leur remet des appareils classiques. Un enfant, il doit entendre pour apprendre à parler, pour ne pas avoir de troubles de scolarité et de rapport avec les autres.
Donc ce conseil à Salvatore hein, d'aller vers l'un des centres hospitaliers pédiatriques de la capitale, présenter son enfant pour qu'on puisse ensuite le prendre en charge sérieusement. Docteur Gérald Fin, hein, pour conclure, on a compris hein, parmi les causes de surdité, de défaillance auditive, un certain nombre de facteurs pourraient être évités. On revient donc à cette question première et terminale, la question de la prévention.
Alors la prévention, elle est essentielle. Puisqu'on peut réparer certaines choses dans l'oreille, l'oreille externe, l'oreille moyenne, mais on ne peut pas réparer l'oreille interne. Est-ce que ça nous viendrait à l'idée de regarder le soleil avec les yeux comme ça de face? Non, on met des lunettes de soleil. Donc quand on écoute une musique trop forte ou un bruit trop fort, on risque de traumatiser un endroit qu'on ne sait pas encore réparer. Ça viendra, on saura le réparer peut-être dans quelques années, mais c'est pas à l'ordre du jour. Donc il suffit de prévenir ces traumatismes sonores, c'est du bon sens. C'est difficile chez les jeunes de leur dire, mais maintenant, il y a un décret qui vient de sortir au mois d'août limitant la musique dans les concerts. Il faut absolument marteler qu'il faut faire attention à ses oreilles, et ça nous permettra d'avoir moins de troubles auditifs chez les jeunes et chez les sujets un peu plus âgés, et surtout moins d'acouphènes, qui est une pathologie difficile qu'on peut traiter, mais qui est de plus en plus fréquente.
Merci docteur Gérald Fin d'avoir participé à cette émission de Priorité Santé. Je rappelle que vous êtes ORL à Paris. Mercredi, c'est le jour de notre chronique santé et sport et c'est avec vous, docteur Jean-Marc Sen. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Alors, on va s'arrêter sur les dernières données de l'étude Esteban menée par Santé publique France. Cette étude montre que l'inactivité physique et la sédentarité gagnent du terrain dans la population française. Alors, docteur Sen, pouvez-vous nous expliquer la différence d'abord entre sédentarité et manque d'activité physique, justement?
Eh bien, Caroline, l'activité physique, en fait, correspond à tous les mouvements de notre corps, hein, qui entraîne une augmentation de la dépense énergétique. Donc ça, que ce soit dans le cadre du travail, des transports, des activités domestiques ou des loisirs. La sédentarité correspond aux situations passées en position assise ou allongée en dehors de la période de sommeil et de repas. Hein. Et là, les mouvements du corps sont réduits à leur minimum. Alors c'est quand on regarde la télévision, on travaille sur son ordinateur, on joue aux jeux vidéo, lire, téléphoner, être passager dans un véhicule, par exemple.
Alors, que dit cette étude Esteban? Esteban, ce sont des initiales, hein. Étude de santé sur l'environnement, la biosurveillance, l'activité physique et la nutrition.
Alors oui, Caroline, cette étude a été menée de 2014 à 2016. Hein. Alors, sur un échantillon d'un peu plus de 1600 adultes, et son objectif était d'analyser le niveau d'activité physique et le niveau de sédentarité de la population dans l'ensemble de leur activité, hein, professionnelle, scolaire ou domestique. Et l'idée, c'était aussi de comparer, c'est-à-dire de montrer quelle évolution il y avait depuis les dernières études, la dernière grande étude qui était l'étude nationale nutrition santé, qui a été faite entre 2006 et 2007. Et alors, les conclusions sont quand même assez frappantes. D'abord, il y a une baisse de l'activité physique préoccupante chez les femmes. Hein. En 10 ans, la proportion de femmes physiquement actives a baissé de 16%. C'est absolument préoccupant parce qu'on sait que l'inactivité physique a été identifiée en 2009 comme le quatrième facteur de risque de maladies non transmissibles. Et donc ça s'est impliqué dans 3 millions de morts évitables. Alors, inactifs et sédentaires, il y a trop d'adultes, deuxièmement, qui cumulent encore ces deux facteurs de risque. Hein. Il faut savoir que 22% des femmes cumulent ces deux facteurs de risque, contre 17% des hommes, et il faut aussi noter que 53% des femmes atteignent les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé en matière d'activité physique. Puis enfin, troisième conclusion importante, une forte sédentarité corrélée à un usage massif des écrans. Alors, en 2006, en dehors de l'activité professionnelle, les populations adultes déclaraient passer en moyenne un peu plus de 3 heures par jour devant un écran. En 2015, plus de 5 heures devant les écrans, soit une augmentation de plus de 53%. Alors, cette évolution s'est accrue, bien sûr, du fait des ordinateurs, des tablettes, des smartphones, et dans une moindre mesure, du temps passé devant la télévision.
Quelles recommandations rappeler en termes d'activité physique pour la santé?
Alors, pour un adulte, il faut faire là 30 minutes d'activité physique, d'endurance, au moins 5 fois par semaine. Alors, vous savez, une intensité modérée. Alors, c'est-à-dire que tout en transpirant un peu, en étant légèrement essoufflé, eh bien, on est encore capable de parler. C'est ça, vraiment, l'intensité optimale de l'activité physique. Et puis, en complément de cette activité d'endurance, il faut essayer de faire des exercices de renforcement musculaire. Alors, des bras, des jambes, les abdominaux ou le dos, une à deux fois par semaine. Des exercices qui développent la souplesse aussi, deux à trois fois des étirements, par exemple deux à trois fois par semaine. Et puis, il faut favoriser le rythme veille-sommeil, hein, et faire des activités physiques, par exemple dans la journée, en extérieur, pour s'exposer à la lumière du jour. Et puis, enfin, limiter la sédentarité. Réduire le temps passé chaque jour en position assise ou allongée. C'est très important. Toutes les deux heures d'affilée, il faut marcher quelques minutes. Faire quelques mouvements, hein, qui activent les muscles, mobilisent les articulations. Il faut faire des rotations des épaules, du bassin, des chevilles, des poignets, des mains, de la tête. Voilà. Tout cela, en faisant, en suivant tous ces conseils, normalement, on devrait être un petit peu en meilleure santé.
En tout cas, beaucoup moins rouillé. Merci beaucoup, hein, docteur Jean-Marc Sen. Je rappelle que vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Et demain, dans Priorité Santé, nous parlerons de l'impact des préjugés liés au genre dans les pratiques médicales. À demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.